Mais Gusta, ça me plaît, j'ai le goût de ça. Vous aussi, bienvenue, c'est le goût du monde. Y a-t-il un sujet plus universel que celui de la nourriture? Quand les moments qu'on propose un peu de soi en bouchée à partager, n'est-ce pas le meilleur des vocabulaires? Sans parler de la confiance donnée à celui qui nous tend la main. Ce bol, un peu de pain, cette confiance vaut de l'or et on l'a presque oublié dans ce geste quasi spontané. Manger, c'est fondamental, mais c'est aussi peut-être un premier mouvement vers l'autre. Bonjour Laurent Aron.
Bonjour.
Vous êtes à notre table déjà, bienvenue.
Merci, merci de m'accueillir.
Vous êtes sémiologue du goût. Première question, j'ai regardé dans le dictionnaire, le sémiologue c'est celui qui observe, qui décrypte, qui analyse pour rendre compte des effets des sens, des connotés, des implicites dans une communication.
Oui,
rapport au goût.
Par rapport au goût, c'est à la fois plus simple et plus compliqué. C'est chercher à comprendre la structure de la signification d'un sujet. Et pour le goût, c'est un sujet en fait, qui semble évident, mais qui est un peu plus compliqué, parce que ce qui se passe dans notre palais, dans notre cerveau, et dans nos relations aux autres, s'articule, et avec pas mal d'idées reçues autour. Et il faut aller d'un côté du côté des neurosciences et de la physiologie pour bien comprendre ce qui peut être activé autour de ce sens-là, dans le langage, dans la relation aux autres, etc. Donc c'est un sujet qui mérite d'être analysé.
Vaste. On a eu la chance d'ailleurs de vous recevoir, mais par téléphone à ce moment-là, quand on a fait une émission autour du goût. Et vous nous aviez expliqué, vous allez peut-être nous le réexpliquer, la particularité du goût, c'est que c'est en fait un sens qui ne se partage pas à la base. Chacun a un propre goût.
Alors, il se partage, mais ce qui se partage, c'est pas la sensation qu'on a. Donc le goût au sens de la gustation, c'est un sens chimique, donc des petites molécules, comme l'olfaction. Donc dans la vie courante, on dit le goût et l'odorat. Mais c'est des sens qui sont différents des autres, comme la vision, parce que c'est des sens chimiques et il y a vraiment des différences incontournables, indépassables. Ce que je sens, moi, c'est pas ce que vous sentez, vous. C'est pas la même teinte. C'est-à-dire que si vous pouvez voir quelque chose en jaune, que je verrai en rouge au niveau du goût, c'est un peu compliqué d'avoir un échange sur la couleur qu'on a en commun, puisque c'est pas la façon dont on perçoit les choses.
Parce qu'on est génétiquement différent.
Voilà,
on n'apprécie pas ces molécules de la même manière.
Voilà, il y a un polymorphisme génétique, et puis ces deux sens sont vraiment, pour le goût des choses, un fonctionnement qui est méconnu, en fait. Parce que d'abord, le goût dans la bouche, il faut l'isoler de l'odorat. Et ça se fait pas dans la vie courante, il faut être enrhumé, ou il faut qu'on vous mette un nez en plâtre qui vous supprime l'olfaction en vous mettant une pompe à air. Donc ça, personne le vit, quoi. Donc on peut pas mesurer à quel point y a plein d'acides différents, plein de sucres différents. Il faut l'expérimenter, ça. Et comme ça vient se mélanger avec d'autres sens, l'odorat, la vision, etc., on a une vision globale du goût, qui est la vision la plus courante, c'est-à-dire ce qu'on goûte, et dire l'audition entre, une chips qui craque, c'est super important, le chocolat qui croque, c'est important aussi. Donc c'est un sens qui est à la fois très familier, mais beaucoup plus complexe qu'on le croit, et cette subjectivité, cette chose qui fait qu'on est différents les uns des autres, c'est pas culturel, là. C'est pas les tripes, le haggis, les escargots, ou les insectes à l'autre bout du monde. Ça fait qu'on est tous les mêmes, c'est-à-dire qu'on a un universel qui fait qu'on a chacun notre particularité, et en même temps, chacun l'exprime biologiquement à sa façon. Quoi.
Tous uniques et tous les mêmes.
Voilà, tous des humains.
D'ailleurs, vous faites très concrètement, vous faites des ateliers, vous faites se rencontrer les gens. Comment est-ce que vous faites pour que les gens soient conscients de cette différence?
Alors, on a la chance qu'il y a une porte mentale qu'on peut ouvrir avec un test génétique qui circule même dans les écoles, qui est une petite molécule, ça s'appelle le PTC, phényléthiocarbamide. Si vous le mettez sur votre langue, vous, moi et d'autres humains, il y a un tiers des gens qui sentent rien du tout, mais rien du tout, c'est quoi, il n'y a rien. Un tiers qui dit « Ah, c'est très amer », et l'autre dit « C'est quelque chose que je sens, mais c'est bizarre ». Donc là, on se dit l'autre est vraiment différent. Et ce qui est important de comprendre, c'est que tout autre goût, toute autre odeur va fonctionner comme ça. Donc chacun voit le monde olfactif et gustatif, et donc le goût au sens global, à sa façon, pour des raisons biologiques. Donc si on ne prend pas en compte ça, on manque quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne se donne pas l'occasion d'accepter la différence fondamentale. On est en train de parler des différences culturelles. Donc quand l'expression des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Bah, les couleurs, on peut en discuter, mais dans les goûts, on est quasiment tout le temps dans le turquoise. Est-ce que c'est du bleu, est-ce que c'est du vert, ou même une autre couleur, quoi. Donc ça nous oblige à la rencontre de l'autre dans sa différence.
Ça nous permet la rencontre de l'autre dans sa différence. Alors, c'est très drôle parce que dans l'expression du rejet ou de l'appréciation ou de l'indifférence par rapport à ce goût que vous vous avez proposé de tester, c'est un peu des réactions aussi clivantes que l'on va trouver quand on propose à quelqu'un qui n'est pas habitué du tout de manger un fromage qui sent très très fort comme un camembert, ou alors de déguster des insectes qui font quand même le régal de plusieurs pays du monde. Tout dépend un peu du côté de l'assiette où on se trouve. Je propose de partir, justement, une incursion en dehors de ce studio, à La Réunion. Ariane Gaffury s'est rendue à la rencontre d'éleveurs de larves de guêpes.
On peut manger les guêpes, c'est le caviar de La Réunion.
Comment ça vous pouvez manger les guêpes?
C'est très bon les larves. Ici, on apprécie ça beaucoup, en friture. On enlève les larves du nid et avec de la fumée, on fait fouiller ça et c'est très bon. Et ça vaut cher ici à La Réunion, ces laves. Hein. Un filet de guêpe, ici, ça se vend à 150 euros. Hein.
Le caviar de La Réunion, un mets luxueux qui se mérite car les piqûres de ces guêpes sont réputées douloureuses. Éric Filéas en sait quelque chose, il est producteur de mangue à l'étang salé dans le sud-ouest de La Réunion. Il est là sous le soleil avec l'intention de se faire un festin de larves de Polyste olivaceus, l'espèce de guêpe locale. La recette, son père Benoît Filéas la connaît sur le bout des doigts.
Hein, comment on fait faire des guêpes? Tu mets un petit peu d'eau, un petit peu de sel. Hein, à ton goût, un petit pincé de poivre. Et tu l'as séché, tu mets ton huile. L'huile pour faire frire. Et après ça, le guêpe le goût comme ça.
Un goût de noisette.
Un goût de noisette, ou jamais manger, ou va trop bon. Hein.
Les larves de guêpe ne tentent pas tout le monde, et je vous l'avoue, j'ai fait la grimace.
Hein, fais pas. Vas-y, fallait monter bien La Réunion pour manger de guêpe.
Ça ne me tente pas du tout.
Hein?
Rien que l'odeur, ça va vous attirer.
L'odeur, la fruitière de la guêpe, il donne un goût dans le palais. Jusqu'à dans le ventre, il sonne.
Si elle continue à tourner dans le ventre, je ne peux pas vous le dire, mais elle continue à proliférer dans le verger des Filéas parce qu'ils n'utilisent plus de pesticides contre les cochenilles dans leur culture. Sébastien Cadet, de la Chambre d'agriculture de La Réunion, est lui aussi un fin gourmet.
Voilà. On va revenir ça dans l'huile, dans une poêle, avec du riz, bien frit, sans grains, sans rougail, rien, que le guêpe avec le riz.
On peut aussi cuisiner les larves en curry avec un mélange d'ail, de piment et de tomates. Aujourd'hui, les Réunionnais apportent des guêpes congelées de Madagascar. Ils peuvent donc se régaler plus souvent.
Le nid, c'est là, il ne voit pas.
Si, il est là. Là, venez là. Là, exactement où je suis, puis vous regardez là-haut.
Ah, dans c'est un joli nid, là.
C'est pas les mêmes guêpes que vous avez en métropole.
Et voilà pour cette aventure. Je ne sais pas si Ariane a finalement goûté ces larves de guêpe, mais en tout cas, on entend très bien Laurent Aron que dans son histoire et dans le récit de son expérience, elle nous raccroche à une histoire dans laquelle on peut tous s'associer.
Oui, c'est très intéressant ce que le producteur dit. Il dit c'est le caviar de La Réunion. Donc là, tout à l'heure, on a parlé du goût des choses, c'est-à-dire les sensations qu'on a individuellement. Et en fait, très vite, on a du goût pour les choses dans notre vie, dans notre enfance. C'est-à-dire qu'on s'agrège à des habitudes. On apprend à aimer les choses autour de soi. Ça devient des classeurs, en fait, les goûts des gens, au pluriel. Donc, les goûts de La Réunion ou les goûts pour un autre endroit où on mange du caviar. Je pense au niveau des insectes au Mexique, où c'est des larves de fourmis. C'est aussi un caviar. C'est-à-dire qu'il y a ces goûts qui sont différents. Et après, il y a un bon goût. Vous voyez, c'est pour ça qu'il parle de caviar. C'est-à-dire que très vite, notre cerveau et nos habitudes sociales nous apprennent à catégoriser. Ça prend moins de place dans le cerveau quand on a des catégories. Et à hiérarchiser. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, le point super important dans le goût, c'est qu'il nous rattache, et l'alimentation et la cuisine, il nous rattache à notre identité. Il y a des expériences qui montrent que les mangeurs de sangliers courent plus vite, les mangeurs de tortues de mer nagent mieux, avec des étudiants en psychologie américains, donc c'est des gens très rationnels. Ça existe depuis l'aube de l'humanité. Donc en fait, on va se situer dans le monde en fonction de nos habitudes alimentaires. Et malheureusement, on prend des fois l'habitude de se situer en hiérarchisant, en disant ce que je mange, c'est mieux que l'autre. Donc là, sur les insectes, juste pour terminer sur ce point, les insectes arrivent en Europe, il y a des autorisations, etc. Mais pendant très longtemps, on a pensé que les 2 milliards de personnes qui mangeaient des insectes, bah, c'est des gens qui n'avaient rien d'autre à manger, quoi. 2 milliards. En fait, non. Chacun a des traditions culinaires. Et donc, prendre conscience de ce goût, à la fois physiologiquement et culturellement individuel, c'est faire un pas, et de temps en temps, hein, parce que chacun a ses automatismes, pour questionner à la fois ses habitudes, les habitudes des autres, et apprendre à les rencontrer, les respecter. En fait, c'est ça, je sais pas si on a besoin de dire que c'est du caviar, mais en tout cas, c'est ce qu'il mange et qu'il aime.
Ouais, c'est intéressant, parce qu'il utilise le mot caviar, en s'adressant à Ian Gaffuri, qui vient donc de Paris. Donc, il part du principe aussi, quelque part, inconsciemment, ou tout à fait consciemment, qu'il va présenter un mets de choix, de qualité, luxueux, à quelqu'un qui, a priori, ne connaît pas, dont c'est le référent. Donc il lui dit, eh bien, dans ta langue à toi, dans ton goût à toi, tes appréciations à toi, voilà, c'est ça. Ça équivaut ça chez nous, pour nous.
C'est très juste, en fait, ce que vous dites là. C'est-à-dire qu'en fait, il rentre dans la logique qui est très occidentale et surtout très française. C'est un modèle un peu de la gastronomie, qui est le goût de la distinction. Donc on se distingue par rapport à ce qu'on mange, ce que racontait Bria Savarin, Grimaud de l'Araignée, etc. Donc on est un petit peu pollué par ça quand même, parce que donc il se centre sur nous, ce monsieur, ce producteur de guêpes, pour utiliser le code caviar pour nous faire goûter quelque chose qui, pour lui, est certes valorisé, mais qui n'a pas cette emphase, je pense. Enfin, il faudrait questionner là-dessus.
Et Ariane rigole aussi et s'amuse. Voilà. Il se met aussi à sa rencontre en lui disant « je vais goûter, j'apprécie, voilà, je découvre ».
Tout à fait. En utilisant quelque chose qui rend le mets accessible. Et en fait, certainement, ce qui rend, je ne sais pas si Ariane aura goûté, mais ce qui rend la dégustation possible et la rencontre de l'autre, c'est le temps qu'on y passe, en fait. C'est ça qu'on oublie souvent au niveau du goût, de la cuisine, de l'alimentation. C'est-à-dire que on veut faire vite. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Donc, vous disiez tout à l'heure, on se raconte des histoires. Les histoires, on les a toutes prêtes. Nos préférences, nos dégoûts sont dans un coin de notre cerveau. Et ils marchent de façon émotionnelle et automatique. Or, ce qui est intéressant dans questionner, se reconnecter sur son goût en soi dans un premier temps, c'est de ressentir le goût de l'autre en ayant le temps dans un second temps et plus largement ceux du monde. Faire écho au nom très bien choisi de votre émission, c'est de prendre le temps de faire marcher la deuxième partie, le cerveau lent, comme on dit. C'est-à-dire, est-ce que je suis en train de manger quelque chose qui, au fond, j'aimerais davantage découvrir? Est-ce que les préjugés que j'ai sur cet aliment ou sur cette culture alimentaire sont les bons, etc. Et en fait, ça, c'est pas intéressant que pour l'alimentation, je pense.
Toujours à quelques mètres de moi. Je t'aime quand bien même.
Instant Karma de Bunny Banane, un titre de la playlist de RFI, elle est belle et riche, il y en a pour tous les goûts dans cette playlist. Et l'on comprend depuis le début de cette émission que le goût, les goûts au pluriel, sont une affaire de rencontre et d'ouverture et d'aventure. Avec Laurent Aron, sémiologue du goût, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes une espèce fabulatrice, nous avons besoin d'histoires pour nous nourrir et aller à la rencontre des autres, des images aussi pour se reconnaître et partager. Ça, cette notion d'histoire qui nous construit, mais dès tout petit, elle est fondamentale, Laurent Aron ?
Ah oui, alors c'est absolument fondamental, mais pas que pour l'alimentation. Mais on a moins conscience qu'on se raconte des histoires pour l'alimentation et pour le goût, parce qu'on pense que nos choix sont légitimes et ils ont des raisons. Alors, elles peuvent être religieuses sur les interdits alimentaires, elles peuvent être de santé, etc. Mais en fait, elles laisseraient entendre qu'il y a un bon goût, vraiment, pour des raisons biologiques. Et ça, c'est une histoire, par contre. Le goût est beaucoup plus plastique. Donc, on a deux côtés.
Plastique, c'est-à-dire il est changeant ?
C'est-à-dire qu'on peut beaucoup plus modeler. C'est-à-dire qu'on a des expériences sur les enfants. Alors, on les fait rarement, parce qu'il faut avoir le courage d'exposer nos enfants une quinzaine de fois consécutives à un aliment, quand ils sont petits et qu'on n'a pas le temps, à un aliment qui dit « non, j'en veux pas ». Mais ça s'appelle la familiarisation. Et il y a des équipes à Dijon qui ont très bien travaillé ça, qui montrent que si on insiste, ou si on tente de présenter différemment, on finit par arriver à faire rendre le goût acceptable. Parce qu'on change la représentation que l'enfant a, ce qui se dit dans la tête, son histoire à lui, on peut la modeler un peu, et du coup, l'association qu'il fait avec son histoire du goût qu'il a dans l'assiette, il finit par l'accepter.
Et l'aider à la construire différemment aussi.
Différemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est, je disais, c'est fondamental parce que les neurosciences, donc moi je suis sémiologue, et c'est un mot un peu compliqué, et puis c'était surtout des sciences sociales, quand j'ai commencé il y a 30 ans. Et aujourd'hui, on a des équipes, je pense notamment aux équipes de Lionel Nakache, qui sont en train d'avoir beaucoup de données pour montrer qu'on vit à travers nos histoires. Les histoires, on reconstruit la vision de ce qu'on voit, de ce studio. Et notre mémoire construit une partie de ce qu'on va vivre, en fait. Donc, quand on mange, on a déjà ses pressentis, ses préjugés, avant même de goûter réellement. Parce qu'au fond, goûter, la vraie fonction, c'est ne pas mourir. Ça, c'est depuis les Homo sapiens.
Ouais,
c'est pour ça que les dictateurs ont un goûteur. Mais cette fonction, on l'a oubliée. Et ce ne pas mourir, parce que mon Homo sapiens d'à côté, il n'est pas mort parce qu'il a avalé le truc que moi, j'ai juste mis la langue dessus, ça va se retrouver dans nos peurs, en fait. Et dans les histoires qu'on se raconte pour justifier nos peurs. Donc tout l'enjeu, et pour répondre à votre question sur la plasticité, c'est se dire que je peux rationnellement me poser la question sur mes habitudes alimentaires. En fait, on mange pas ce qu'on aime, on aime ce qu'on mange. C'est pas juste mettre le bout de la langue et puis après. Et après, du coup, s'apercevoir qu'on peut faire d'autres choix. Si on a envie, si on n'a pas envie, on peut rester. Tout ça n'est pas rigide, en fait.
Et c'est en termes d'acceptation aussi, c'est très important.
Tout à fait.
On va à la rencontre de l'autre, mais comme je l'ai dit en introduction de cette émission, quand on nous offre quelque chose à manger, il est loin le temps où on se méfiait. Maintenant, on va manger, goûter, accepter ce qui nous est offert à manger sans se méfier, avec une confiance de fait.
Alors, j'aimerais avoir votre optimisme. Moi, je pense que c'est un combat, en fait. Ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, finalement, ces petits objets qui sont dans nos assiettes tous les jours, on ne peut pas s'en passer, sinon on meurt, si on ne mange pas. On a eu beaucoup d'intérêt, notamment dans les dernières années, à travers la cuisine, l'esthétisation pour tout ça. Mais est-ce qu'on questionne vraiment les choix qu'on fait ? Par exemple, quand on explique aux gens que la viande a l'empreinte carbone, quand on a des habitudes très françaises, très ancrées, qu'on veut sauver les éleveurs de notre pays, ça coince, ça accroche un peu, quoi. Donc, et pourtant, on peut modifier les choses, comme on en a envie. Donc, je pense que c'est un sujet où on se donne pas, on s'autorise pas la liberté dont on est propriétaire, en fait. On peut revisiter les choses, explorer, découvrir. Et il faut le faire avec les autres, parce que c'est les autres qui ont les différences. Et donc l'enjeu, il est puissant. Cette alimentation, cette cuisine, ce goût, qui est le point d'entrée, sont une porte pour construire un monde, je pense, avec plus d'acceptation, pour employer votre vocabulaire, qui me plaît beaucoup. C'est un terme, en plus, qu'on utilise beaucoup dans la psychologie du goût, pour plus d'harmonie, plus de rencontres, plus d'ouverture, plus de souplesse. Et on n'est pas condamné à manger ce qu'on croit aimer.
Le goût du monde sur RFI. Ce qui est intéressant, si c'est de voir, c'est non seulement on mange, mais aussi la manière dont on mange. Il y a bien des cultures, on va manger avec des baguettes, on va manger avec des couverts, une fourchette, et d'autres qui vont manger avec leurs doigts. Ces cultures où l'on mange avec ses doigts, c'est aussi une acceptation d'aller dans ce chemin-là. Quand on vous présente un bol avec du mafé, vous allez goûter avec vos doigts. Et on va vous dire aussi que vous allez goûter différemment avec vos doigts. C'est tout un apprentissage, et c'est aussi un apprentissage de la place sociale de l'individu dans sa culture et dans sa société. Je vous propose d'écouter le conteur sénégalais Massamba Gueye, c'est ce qu'il nous avait expliqué autour de l'art du bol.
Il ne s'agit pas de manger, il s'agit de s'aider à manger. Autour du bol, personne ne mange, tout le monde s'assoit pour aider l'autre à manger. On ne prend jamais un morceau de viande pour soi-même, on le prend pour partager. Et l'enfant, la personne qui sait dire à l'autre, tiens un bout, toute sa vie, il saura partager. La personne qui mange et qui sait qu'il doit manger juste devant soi, cette personne, on a moins de chances de le voir détourner les deniers publics plus tard, parce qu'il saura s'accommoder de ce qu'il a. La personne qui sait que ce qui est au milieu du bol appartient à tout le monde et qu'il doit en prendre juste la part qu'il lui faut, cette personne-là saura que l'équilibre d'une communauté dépend de ce que chacun apporte au l'autre. Il n'est pas dans l'attente, il est dans le don de soi. Et c'est pourquoi, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, manger, ce n'est pas juste se nourrir. Manger, c'est se mettre à la disposition des autres. Et il y a un marabout sénégalais qui disait, un grand chercheur sénégalais qui a été exilé pendant trois ans pendant la colonisation, on lui a dit, c'est quoi gaspiller de la nourriture? Il dit, gaspiller de la nourriture, c'est manger. Digérer ce qu'on a mangé, et entre les deux moments, ne pas se rendre utile à un humain. Donc, manger, ce n'est pas juste avoir de l'énergie. Manger, c'est se donner les moyens d'être utile à sa société. Ce sont ces stratégies-là de socialisation qui sont importantes dans l'art du bol.
Le conteur sénégalais Massamba Gueye, ça vous inspire quoi, Laurent Aron ?
Je trouve ça un formidable témoignage, d'abord. Très, très touchant et très vrai. Donc, je fais juste une petite insiste sur le goût. On le réduit souvent à l'aliment. Le goût de la pomme, ça serait la pomme, ou le goût du manioc, le manioc. Et même, on a un grand penseur de la cuisine française, Paul Bocuse, qui disait le produit, rien que le produit. En fait, notre cerveau ne marche pas comme ça. Le goût, c'est ce qu'il y a dans l'assiette, bien sûr, ou dans la main. Et puis, ce que je suis moi, avec mes différences biologiques, comme on l'a vu, qui sont souvent ignorées, culturelles, qui sont souvent évidentes et clivantes, et aussi le contexte. C'est-à-dire que, quoique le Covid a peut-être changé un peu les données, mais prenez dans un Tupperware ce que vous mangez à 500 euros dans un grand restaurant toute seule chez vous, c'est peut-être pas la même expérience, quoi.
Qu'est-ce que c'est ?
Oysters à la parisienne.
Oui, ce sont des huîtres dans de la soupe au lait.
Le goût du monde.
Ah, oh, ça c'est étonnant.
Clémence de Navy.
C'est délicieux, delicious. Que c'est bon. Voilà. Oui, aïe, aïe.
Le geste, le rituel participe au goût, mais au sens physiologique. Hein, on a des expériences sur le vin qui sont très parlantes. Vous changez la couleur, vous changez le goût, vous changez l'étiquette, vous changez le goût.
La chips ne croque plus, on change le goût.
La chips ne croque plus, on change le goût. Donc ce contexte est important. Et sur le point qu'il évoque là derrière ça, c'est que on apprend le monde à travers la façon dont on mange. Donc, on trouve toujours les autres bizarres, en fait, dans la vie, quand on ne les connaît pas. Et on trouve souvent très bizarre ce qu'on n'a pas l'habitude de manger. Donc, moi, c'est ce parallèle. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas de bizarre dans l'absolu, et il n'y a pas de bon goût dans l'absolu. Un truc un peu violent à vous dire sur les odeurs qui participent au goût. Les odeurs fécales, par exemple, ne sont pas des odeurs mauvaises de façon innée. Nos enfants, nos bébés s'en fichent. Donc, on apprend tout. Voilà. Et après, on vient faire des liaisons dans notre cerveau entre ce qu'on ressent et qui est très différent d'un sujet à un autre, et ce qu'on en pense au sens un peu notre petite pensée magique à nous, nos histoires à nous. Donc, à travers ça, on va se rentrer dans le monde à notre façon, et c'est très important de comprendre que derrière le mangeur, il y a un citoyen, et moi je suis pas mal de formation en entreprise aussi, et les questions qui se posent aux mangeurs sont à peu près les mêmes qui se posent aux citoyens ou aux managers, c'est-à-dire, est-ce que j'écoute l'autre ? Est-ce que je peux le rencontrer ? Comment je peux faire un compromis avec l'autre ? Est-ce que j'accepte sa différence ? C'est, moi, ça me semble des questions structurantes des collectifs dont la société va avoir de plus en plus besoin. Et comme on va rentrer dans une phase où les ressources alimentaires vont être relativement bouleversées, on va dire, sans parler de sobriété, des choses comme ça, on a intérêt à y réfléchir ensemble à partir de chacun d'entre nous. Intégrer notre réflexion personnelle, non pas comme une restriction à quelque chose, mais comme une contribution à quelque chose qu'on peut faire ensemble.
Comme dit Massamba Gaye, notre contribution à la société, notre contribution au monde, dans nos choix aussi. Est-ce qu'il ne faut pas revoir nos choix? Est-ce qu'il ne faut pas renoncer à manger du quinoa, qui a créé une... On a eu la mode du quinoa, on a eu la mode de l'avocat, ce qui a créé des tensions sur les marchés. Et de l'autre côté du monde, où sont produits les quinoa et les avocats? Comment vivent les gens aujourd'hui? Ce sont des questions qui, du coup, se posent, découlent.
C'est des questions qu'il faut se poser vraiment. Et là, il faut revenir sur le... Je faisais allusion tout à l'heure à la théorie du cerveau lent, cerveau rapide de Kahneman, là, du prix Nobel d'économie. On a un temps, je ne sais pas, par exemple, devant le frigo, alors que la famille arrive, à la fermeture du supermarché, devant les vitrines, ou au marché, en fin de marché, devant la commerçante. On a peu de temps. Donc là, nos algorithmes s'appliquent. Ce que j'ai l'habitude de manger va me faire faire mes choix. Ou sous la pression de nos invités pour les satisfaire, parce que leur présenter quelque chose de nouveau, ça serait trop perturbant pour eux si on a un dîner. Donc il y a un temps pour aller vite et faire en fonction de ce qu'on sait, et puis un temps pour questionner le quinoa, les avocats. C'est-à-dire, est-ce que mes choix, fondamentalement, je les assume pleinement compte tenu de ce monde qui est complexe, qui évolue, et Dieu sait si l'alimentation c'est complexe, parce que c'est vraiment un sujet d'interdépendance, hein, entre les... C'est-à-dire que les habitudes qu'on a prises, avec l'organisation de l'agriculture, etc., c'est pas qu'elle soit mauvaise ou bonne, c'est qu'elle pose des questions. On va arracher effectivement des oliviers en Andalousie, on en arrache en mettant des méga bassines à côté. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Moi, j'ai eu une réaction en disant c'est mal. Mais peut-être pas, parce que peut-être que le contexte agricole là-bas fait que l'olivier utilise de l'eau aussi. Donc c'est de temps en temps se questionner, se renseigner et pas subir les croyances, les injonctions, les bons conseils rapides, dont en fait on est assez abreuvé par les moyens modernes de communication sans faire de blagues dessus, quoi. La rapidité de l'information qu'on reçoit ne nous amène pas à avoir une réflexion avec beaucoup de recul.
Donc ce que vous dites, c'est que par le chemin du goût, c'est un retour vers soi.
Vers soi, vers les autres, vers le monde, dans sa globalité et sans égoïsme en fait. Après, on a le droit d'être égoïste, on a le droit de penser qu'à soi. Chacun fait. Je ne vais pas soustraire l'unicité des. Mais la question qu'on peut se poser, c'est sachant que le goût est très individuel, très subjectif, moi, la question que je pose toujours, c'est qu'est-ce que je fais dans ce monde de ma singularité? Est-ce que c'est pour contribuer ou est-ce que pour être mieux que mon voisin?
Merci beaucoup, Laurent Aron.
Merci à vous.
Merci. Les liens pour vous suivre sont sur la page de l'émission Le Goût du Monde. Quelques liens aussi vers de précédentes émissions éventuellement que vous voudriez réécouter sur ces sujets. On avait parlé des insectes, on avait parlé de manger dehors, manger dedans. Est-ce qu'on va au restaurant dès le matin ou pas? Dans ces histoires évidemment de partage. Merci beaucoup à Guillaume Munier pour la réalisation et la mise en onde de ce Goût du Monde. À vous de votre fidélité. Et un clin d'œil à Thierry, le chef du restaurant Rouge d'Eau à Paris, qui nous écoute les lundis matins en podcast dans sa cuisine pendant qu'il coupe ses oignons. Le podcast, bien sûr, avec Pure Radio ou votre application préférée pour écouter quand vous le souhaitez. Bonne semaine à toutes et à tous.